On a commencé une étude il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte que depuis 3-4 semaines qu'on parle sur le Saint-Esprit. On a commencé avec la Pentecôte, mais là aujourd'hui on est rendu qu'on continue l'étude en parlant du Saint-Esprit. Parce qu'il s'est passé de quoi d'extraordinaire voilà 2000 ans à la fête de la Pentecôte. Une promesse de l'Ancien Testament qui s'est accomplie là comme Dieu l'avait décidé d'avance. Lors de la Pentecôte, ce qui s'est passé là, c'est un résultat de la bonne nouvelle que Jésus a payé, il est mort sur la croix, il a versé son sang, ça c'est à Pâques, il a versé son sang, puis il est ressuscité entre les morts, il est allé porter son sang auprès de son Père. Mais il avait dit à ses disciples, je vais prier pour vous, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Puis il a dit à ses disciples, priez jusqu'à temps que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Puis c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Le Saint-Esprit était répandu avec puissance. Puis ça, ça l'accomplissait une promesse de l'Ancien Testament qui disait que dans les derniers temps, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On voit ça dans Actes 2, le verset 17. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était pas si facile que ça de vouloir consulter Dieu. Fallait que tu rencontres un prophète de Dieu. Il n'avait pas à tonne des prophètes de Dieu. Fallait que tu ailles voir le prophète ou le sacrificateur pour entendre la parole de Dieu ou un scribe, quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, ou tu allais voir un prophète pour entendre une parole directe, t'amenais une chèvre, t'amenais quelque chose pour y offrir en cadeau, puis tu recevais une parole du Seigneur. Mais là, c'était très isolé, il fallait que d'un cas comme Naaman, le Syrien, qui avait la lèpre, qui est allé voir le prophète, c'était pas à porte. Il a fait un long millage, puis il n'y avait pas d'avion, puis il n'y avait pas de train dans ce temps-là, il n'y avait rien, à pied, ou à d'autres chameaux, ou je sais pas quoi. Puis, te rends jusque là-bas, puis là, de recevoir, puis des fois, tu n'es pas content de ce que tu entends, parce que les prophètes de Dieu disaient la vérité. Mais c'était compliqué. Mais Dieu, il voulait pas que ça soit limité comme cela dans la Nouvelle Alliance. Il a fait que le Saint-Esprit soit répandu sur tous ses serviteurs et ses servantes. Tous ceux qui s'engagent à suivre Jésus peuvent être remplis du Saint-Esprit, puis peuvent recevoir les paroles de Dieu directes, puis les révélations de la Bible directes. Mais il y a aussi les églises qui sont là, qui s'est formées depuis ce temps-là, qui sont des lieux pour apprendre la parole de Dieu, puis se fortifier dans le Seigneur, là, se fortifier dans notre foi. Mais c'est l'idée de répandre l'Esprit, puis que ça soit pas isolé juste à Jérusalem, mais d'aller à Jérusalem, dans Judée, dans Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Puis il a dit que la promesse est pour vous puis pour vos enfants en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il y a une effusion du Saint-Esprit qui a commencé à la Pentecôte. Comme ça s'était jamais vu, mais c'était une promesse de l'Ancien Testament. Promesse dans le livre de Joël. Là, on va apprendre à connaître c'est qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Parce que si on regarde les religions aujourd'hui, tout le monde a des opinions variées pour expliquer qui est le Saint-Esprit. Ce qu'on va apprendre, c'est que ce qu'il faut apprendre, c'est la vérité. Comment je vais faire pour connaître ce que je vois pas? Parce qu'on le voit pas. Y a-t-il quelqu'un qui a rencontré le Saint-Esprit dernièrement, à part que de l'entendre parler de temps en temps? La seule endroit qu'on a des références qui nous expliquent des choses sur Dieu, sur le Saint-Esprit, c'est dans la parole de Dieu. Dieu a déjà donné à ses serviteurs, les prophètes et les apôtres, les révélations. C'est tout mis par écrit, puis c'est là-dedans qu'il faut aller chercher toutes les révélations qu'on a besoin de comprendre si on veut étudier un sujet. Là, on veut parler du Saint-Esprit aujourd'hui pour apprendre à le connaître. Première chose, c'est que le Saint-Esprit, mais c'est pas une partie de Dieu. Comme qu'il y a des gens qui pensent. Le Saint-Esprit fait partie de Dieu. C'est pas une partie. Il est Dieu, comme Jésus est Dieu, comme Dieu le Père est Dieu. Les trois sont pleinement Dieu. C'est pas une partie, c'est Dieu. Puis on va voir des versets qui parlent de tout cela dans la suite. Comme dans 1 Jean 4, le verset 13, ça dit, « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. » Il nous a donné de son esprit. Il nous a pas donné une partie de, comme si on y avait enlevé un morceau. Il nous a donné de son esprit. On a part au Saint-Esprit. On est en communion avec Dieu, puis on sait qu'on est en communion avec Dieu à partir du moment que tu reçois le Saint-Esprit. Puisque quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Dieu. On va le voir dans des passages. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Dieu, pleinement Dieu. Tu reçois Dieu le Père, tu reçois Jésus, puis tu reçois le Saint-Esprit. Que tu dises, viens Seigneur Jésus, entre dans ma vie, tu as demandé à Dieu d'entrer dans ta vie. Quand il rentre dans ta vie, tu as reçu Jésus, mais tu as reçu aussi le Saint-Esprit, puis tu as reçu Dieu le Père. Bon, on va voir des versets qui démêlent ça, parce que ça va contredire beaucoup de points de fausses doctrines qu'on entend dans le monde. Nous parlons du Saint-Esprit que Dieu le Père, ou Jésus, a chéri pendant toute l'éternité. Les trois, ils étaient qu'un ensemble de toute l'éternité, puis ils étaient en pleine communion un avec l'autre, avant même que le monde invisible ait été créé, avant même que le monde visible ait été créé. Dieu, il était Dieu, là, les trois qui sont un ensemble, à s'aimer de l'amour éternel de Dieu, que Dieu aime Dieu. Puis quand même une fois qu'il nous donne son esprit, ça nous dit, dans Jacques 4, 5, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui l'a fait habiter en nous. » C'est quelque chose quand tu t'arrêtes à méditer à ces versets-là. Dieu, là, il est comme... Ça y fait de quoi de t'avoir laissé l'Esprit entrer dans ta vie? Lui, il était éternellement connecté avec lui-même, avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans une communion et un amour parfait ensemble. Puis là, il dit, c'est avec jalousie. C'est comme si moi, je déciderais de dire à ma femme, « Correct, va avec le voisin en char, va-t'en à faire des commissions. » Là, sur le coup, tu te dis, « Ouais, ma femme est partie avec un autre. » Bien, c'est un peu ça l'idée. C'est avec jalousie que Dieu, il chérit l'esprit qu'il nous a mis en nous. C'est une partie de lui, ça. C'est lui qui met en nous. Mais dans un sens, parce que c'est dur à comprendre, parce que humainement parlant, on est habitué avec un petit cadre bien, bien rétréci dans nos connaissances. Mais Dieu, il était pleinement en communion avec Jésus et avec son Saint-Esprit. Comme si c'était un. Puis quand il nous le prête, il nous le donne pour qu'il demeure éternellement avec nous. Mais il ne faut pas prendre ça à la légère. Dieu, il fait ça comme si avec jalousie. Puis il chérit cet esprit-là. Il n'y a rien de plus précieux. Comme il chérit Jésus, il a dit en lui, j'ai mis toute mon affection. Mais la même chose avec le Saint-Esprit. Quand il parle de chérir, je n'ai déjà parlé, c'est désirer, avoir un vif désir de ou poursuivre avec amour, c'est ça l'idée. Dieu le Père, Jésus poursuit avec amour le Saint-Esprit, mais ils étaient en amour ensemble de toute éternité. Là, il nous laisse venir en nous. Depuis la Pentecôte, Dieu nous a donné la possibilité de vivre en contact avec le Dieu vivant. Parce que c'est le Dieu vivant qui a été répandu dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est Dieu, le Dieu éternel qui était là avant toute chose. Il vient en nous. La Bible a dit dans d'autres versets qu'on est le temple du Saint-Esprit. On est l'habitation de Dieu en esprit. On est comme au sens humain. Une église, là, quand on parle, on va à l'église, le monde a l'idée que Dieu est dans l'église, c'est avoir rencontré Dieu dans l'église. Mais c'est pas la bâtisse qui est où ce que Dieu réside. C'est dans nos vies qu'il a décidé de résider, en nous, pour qu'il soit là dans une parfaite relation avec nous. On a la possibilité, depuis la Pentecôte, de le vivre, là, ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont vécu. Pour comprendre le Saint-Esprit, il faut comprendre l'essence même de Dieu. Parce que souvent, il y en a qui vont dire, Saint-Esprit, mon chum, c'est pas à l'égal de l'humain du tout. C'est Dieu. On devrait avoir un respect incroyable en pensant que le Créateur de l'univers, toute la création est assez grande contenir Dieu, puis il décide de venir en moi. C'est bien plus que ce qu'on pense. Il faut avoir de la crainte de l'Éternel, la crainte de l'offenser, la crainte de lui faire de la peine, la crainte de faire des choses qu'il n'aime pas. On devrait comprendre que le Dieu saint habite dans un être comme on le mérite pas du tout. Il habite d'un être impur à la base. Il a fallu qu'il nous purifie par le sang de Jésus pour arriver à le recevoir, puis par son aide qu'on sort tranquillement de toutes nos impuretés. On est loin d'être 100% comme lui aimerait qu'on soit. On est en cheminement. Un jour qu'il nous ressuscite, là, on va être comme Jésus. En attendant, on ne l'est pas encore. C'est ça qu'il faut y aller avec crainte, faire attention de la manière qu'on vit. Le fait de penser que le Saint-Esprit est comme une chose, parce que des fois, il y a du monde qui pense que le Saint-Esprit est comme une chose qu'on voit. Mettons, dire que le Saint-Esprit est un arbre, parce que la pensée comme, mettons, du nouvel âge. Dieu, c'est la nature, puis quand tu communies, tu es en communion avec les arbres, puis là, tu es en communion avec Dieu, ça n'a pas rapport du tout, c'est un mensonge. La nature n'est pas Dieu. La nature est une création de Dieu. Dieu, c'est lui qui a mis ça en place, la nature, pour qu'on puisse marcher dedans. C'est comme un parc que Dieu a bâti, puis il nous a dit qu'hein, allez jouer dans le parc. On est dans le parc, on joue avec toutes ces bébelles, mais il a mis ça là, mais ça, ces bébelles-là, c'est pas Dieu. C'est ce que Dieu a permis qu'on joue avec. Dieu, il est esprit, il est en dehors de tout cela. Fait que, il y a un verset dans Hébreux chapitre 3, le verset 3, ça nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, prononcée par Jésus, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Fait que c'était impossible de voir Dieu humainement parlant dans la nature. Tu peux considérer la nature, dire, wow, c'est grand cette nature-là, c'est extraordinaire de voir la grandeur de sa beauté-là, puis la grandeur, quand tu regardes l'univers, comment c'est grand, ça nous démontre comment Dieu est puissant, puis comment il a l'imagination fertile pour avoir créé des affaires qu'on n'aurait jamais pensées, puis qu'on pensera jamais. On n'a pas tout découvert déjà de tout ce qu'il a mis là. On fait juste découvrir au fur et à mesure tout ce qu'il a mis là. Mais que tu regardes la nature, tu vois pas Dieu. Tu peux juste te donner une idée. Waouh, il est grand ce Dieu-là d'avoir mis tout cela. Puis il faut faire attention qu'on pense pas qu'on en vienne comme certaines religions ou des philosophies ou des pensées nouvel âge de nous faire accroire que Dieu est dans les biens, il est dans la matière. Et Dieu, il est pas là-dedans. Il, comme je disais tantôt, il nous permet de jouer avec cela, mais c'est pas lui. Même de décider d'y bâtir une bâtisse pour que Dieu y habite, comme David voulait faire, puis le prophète le dit, Dieu habite pas dans une maison faite de main d'homme. Les cieux puis les cieux des cieux sont pas assez grands pour contenir Dieu. Encore moins de maison que moi je vais y faire. Mais Dieu a quand même béni l'idée qu'il y ait une maison, mais c'est pas Dieu, c'est pas Dieu, cela. Puis une autre chose aussi, Dieu, il est pas le soleil. Il n'est pas la lune, ou une planète, ou un arbre, ou un animal, ni un humain. Il n'y a pas d'humains qui sont Dieu. Il n'y a aucun objet qui lui ressemble. C'est des choses accessoires qui sont là, qu'il a mis là pour qu'on en profite, mais c'est pas Dieu. Il dit, avec quelle image j'allais me représenter? C'est impossible, il n'y a rien ici qui ressemble à Dieu. Dieu a donné des formes aux choses, mais ces choses-là, c'est pas Dieu. Dieu, il a pas de corps comme nous. À la base, Dieu est esprit. Il est pas corps, il est pas matière. Il est esprit. Puis, ça nous le dit dans Jean 4, 24. Dieu est esprit. Puis, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. C'est pas une question d'objet. C'est pas une question d'apparence. Même un humain qui se pense Dieu sur la terre, là, c'est pas de Dieu. C'est de l'idolâtrie, tout simplement. Ou même un ange commençait à dire, penser qu'il est Dieu. C'est pas Dieu, c'est une idolâtrie de vouloir rendre un culte à un ange. C'est des êtres créés, la même chose que nous. Il y a juste Dieu qui est Dieu, puis il n'y en a point d'autre. Il est esprit, puis il est... si tu vois quelque chose à un moment donné, ben, c'est soit une de ses créations, de ses créatures, ou c'est Dieu qui a décidé de se manifester d'une façon pour que tu puisses le voir, mais c'est pas lui comme tel, c'est juste une manifestation de ce qu'il a voulu que tu vois. Parce qu'il peut apparaître comme si, comme dans n'importe quelle forme qu'il voudrait. Dieu, il est pas limité. Jésus venait de ressusciter, il apparaît à ses disciples ne le reconnaissaient pas. Il pouvait apparaître dans l'apparence qu'il veut. Il a apparu quand ils ont ouvert les yeux, là, ils l'ont reconnu. Mais l'idée, s'il veut, tu vas le reconnaître. S'il veut pas, tu le reconnais pas. C'est lui qui décide, puis il faut pas penser qu'il est la matière. Nous parlons de l'Esprit, quand on parle du Saint-Esprit, là. On parle de l'Esprit qui est en Jésus. Parce qu'on le sait, on a d'autres passages qui nous disent que, comme dans Jean, au premier chapitre, ça dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, puis la vie était la lumière des hommes, puis la parole a été faite chair. Ça nous dit, c'est Jésus, il est Dieu, Jésus est Dieu. Mais on parle de l'Esprit Saint, qui était dans Jésus. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est que Jésus, tu vois, on voit son corps qui s'appelait Yeshua, le Messie, Yamashia. Tu vois Yeshua, tu vois son corps, mais le corps n'était pas Dieu. C'est qu'est-ce qu'il y avait en dedans qui était Dieu? Qu'est-ce qu'il y avait en dedans qui était Dieu? Mais il y avait Dieu le Père qui était là, puis il y avait le Saint-Esprit, puis il y avait Jésus lui-même, l'Esprit qui s'appelle Jésus, parce que Jésus qui est Dieu, mais c'est Yeshua, mais on est mêlé que ça des fois. Mais c'est Yeshua qui s'est fait, quand il a commencé à se faire appeler Yeshua sur la terre, qui veut dire Dieu sauve. À l'intérieur de lui, il y avait Dieu le Père, il y avait Yeshua, puis il y avait le Saint-Esprit. Puis les trois, ils ont toujours été connectés ensemble, ils ont toujours demeuré ensemble dans toute l'éternité. Mais on parle de cet esprit-là qui était dans Yeshua. Puis c'est cet esprit-là qui a ressuscité Yeshua d'entre les morts. Ben Jésus, son corps, il est mort. Ça dit qu'il est descendu dans le séjour des morts pour aller prêcher sa victoire. Ben après, trois jours plus tard, il a monté pour aller porter son sang dans les lieux célestes. Mais qui l'a fait ressusciter parce qu'il était mort? Ça dit que c'est l'Esprit Saint. On voit ça dans Romains 8, 11. Ça dit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Voyez-vous, c'est le Saint-Esprit qui était dans Jésus, qui a ressuscité Jésus. Puis si cet Esprit-là habite en nous, ben cet Esprit-là qui a ressuscité Jésus, c'est lui qui va se charger de nous ressusciter. N'est-ce pas extraordinaire? On parle pas de la résurrection spirituelle dans notre vie présente. On parle du jour où Dieu va nous sortir de la poussière de la terre, puis il va nous redonner un corps. Puis on va être encore vivant parfaitement là, avec tout le reste de la gang des ressuscités, avec tous les anges, puis avec Dieu lui-même. Puis on va vivre une histoire sans fin avec lui. Ça va être extraordinaire, mais c'est cet esprit-là qui va nous ressusciter, l'esprit qui était en Jésus. C'est cet esprit-là qui a été répandu pour permettre à une multitude de pouvoir ressusciter. Parce que sans avoir reçu ce Saint-Esprit-là, tu ne pouvais pas faire partie des ressuscités. Il fallait que tu naisses de nouveau. Puis tu es né de nouveau quand tu as accepté de te reconnaître pécheur, puis tu as demandé pardon, tu as confessé que tu crois que c'est Yeshua qui est mort pour pardonner tes péchés. Mais là, tu l'as reçu, puis quand tu le reçois, tu es pardonné. Mais il ne vient pas juste te pardonner. Son Saint-Esprit rentre dans ta vie. Tu viens d'être un participant des résultats de la Pentecôte, de l'effusion de l'Esprit qui doit répandre tout, sur toute chair qui se convertit. Merci Seigneur. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons aussi Dieu le Père et Jésus-Christ. C'est ce que je vous disais tantôt. On voit ça dans Jean chapitre 14, les versets 16 à 18. Alors, regardez bien ça. Moi, ce que je trouve beau là-dedans, c'est comment est-ce que Jésus, il appelle son Père « il », puis il appelle le Saint-Esprit « il ». C'est comme s'il désigne qu'ils sont là. C'est des êtres que tu t'adresses à eux, tu peux leur parler. C'est des êtres vivants, c'est pas des choses. Tu sais? C'est ça qui est le point. Jésus dit, « Et moi, je prierai le Père. » Là, Jésus est sur la terre, puis il parle du Père qui est dans les lieux célestes. Il dit, je vais prier le Père, puis il vous donnera un autre consolateur. Parce qu'il y en avait déjà un, là, sur la terre, un consolateur. C'était Jésus qui était là pour être, les assister, les aider, les encourager, les fortifier, les bénir, leur donner de l'onction, puis les encourager, puis les... Fait que là, il va vous donner un autre consolateur, à part de lui, il parle comme si c'était un autre, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, on parle du Saint-Esprit, là, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne voit point et ne connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça, il demeure avec vous, ça veut dire qu'il veut faire sa demeure en nous. Il veut rester ici en moi, comme qu'il veut rester dans chacun de ceux qui le reçoivent. Il dit, je vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Oups, là on a une révélation là, dans ce que je veux vous emmener. Il dit, je vais prier le Père, il va vous envoyer un autre consolateur. Il dit, c'est pas moi qui va, il va être envoyé. Il dit, il s'appelle le Saint-Esprit, puis lui, il va demeurer en vous. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, il dit, à la fin du verset 18, je vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ça veut dire que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Jésus en même temps. C'est ça qui est l'idée. C'est qu'ils sont pleinement en communion un l'autre. T'en reçois un, tu reçois trois. Regardez bien. Là, je viens de vous lire Jean 14, 16 à 18. On va lire Jean 14, 23. Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » Là, il parle du Père, de Dieu le Père. « Nous viendrons à lui. » Il est en train de parler du Père, puis si vous gardez ma parole, mon Père va vous aimer, nous viendrons à lui. Ça veut dire, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Jésus et Dieu le Père, en même temps que tu reçois le Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est ça qui est le point. C'est que Dieu, il est en trois êtres distincts. Quand je dis des êtres, c'est pas des êtres humains. C'est des êtres, en voulant dire le verbe être. Dieu le Père peut dire « Je suis là », puis Jésus peut dire « Je suis », puis le Saint-Esprit aussi peut dire « Je suis ». C'est des êtres, trois êtres distincts qui se parlent l'un l'autre. Il dit « Je prierai le Père », ça veut dire que Jésus parle au Père. Puis l'Esprit intercède par des soupirs, il intercède, ça veut dire qu'il parle au Père. L'idée, c'est qu'ils se parlent entre eux autres. C'est trois êtres distincts, mais qui forment qu'un seul Dieu. T'en reçois un, tu reçois trois. Mais ils sont quand même trois êtres distincts, égaux, en un seul Dieu. C'est ça qui est la vérité. Contrairement à ce que plusieurs pensent, en recevant le Saint-Esprit, on reçoit pas juste une force, une puissance, comme si ça sera juste de l'énergie de Dieu. Mais on reçoit quelqu'un de vivant. C'est un être vivant, le Saint-Esprit. C'est le Dieu vivant. Parce qu'il y a un verset qui est comme un peu mêlant quand on le prend un peu du mauvais sens. Dans Actes 1:8, il dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Fait que là, ils se disent, le Saint-Esprit, c'est juste la puissance. Non. Ils disent, allez recevoir une puissance. Allez recevoir de quoi de puissant. Le Saint-Esprit. Ça veut dire, il dit pas que c'est juste une puissance qu'il y a sur soi. Il dit, c'est quoi de puissant? C'est le Saint-Esprit qui va venir en vous. Fait que tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Dieu le Père, tu reçois Jésus, tu reçois de quoi de puissant dans ta vie. Mais pas parce que le Saint-Esprit est juste une puissance, c'est parce que le Saint-Esprit, c'est le Tout-Puissant qui rentre dans ta vie. C'est quelque chose. C'est pas juste une énergie, c'est pas juste une force. Si tu le compares à l'énergie, là, l'électricité, ou la gravité, parce que si on est collé sur la planète, c'est la gravité apparemment qui nous retient. Si un satellite il demeure en orbite autour de la planète, c'est parce que c'est la gravité. La gravité, c'est une force d'attraction qui est dans la matière. Ça se voit pas à l'œil, mais c'est une puissance. Mais même si tu parles à la puissance de la gravité ou à la puissance de l'électricité, vous attendrez qu'ils vous répondent. Vous allez, ouais, vous allez attendre longtemps, ça répond pas. De l'électricité, t'as beau y parler longtemps, puis elle parlera pas. Il compare l'électricité ou à la gravité, le Saint-Esprit, comme si ça serait juste une force ou une puissance. Puis il y en a des millions de personnes qui pensent ça. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que le Saint-Esprit, il est vivant. C'est un être, c'est Dieu lui-même que tu as reçu, qui était là éternellement avec Dieu le Père puis Jésus. La Bible dit qu'il peut être attristé. On voit ça dans Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Tu peux-tu attrister de l'électricité? Tu peux-tu attrister la gravité? Non. Mais tu peux attrister cet esprit-là qui est éternel. C'est l'esprit éternel. On va le voir dans d'autres versets. Être attristé, c'est de rendre triste, éprouver de la tristesse, être affligé ou jeter dans la douleur ou chagriner. Ça veut dire qu'on peut chagriner le Saint-Esprit. On peut le jeter dans la douleur, qu'il y ait de la peine, que ça y fasse de quoi de voir l'état dans lequel où ce qu'on est. Puis il dit, attristez-les pas, chagrinez-les pas. Faut que tu fasses attention dans ta marche parce que tu peux l'offenser. C'est faire que quelqu'un soit gêné ou lui causer un scrupule. Quand il nous voit agir dans des choses charnelles de péché, il a honte de nous. Il ne faut pas penser qu'il est trop content de notre manière de vivre. On l'afflige, on lui fait de la peine, puis il pleure, le Saint-Esprit. Quand Jésus il était ému de compassion, c'est par l'Esprit Saint de voir les gens qui étaient comme des brebis errantes puis qui suivaient pas de berger. Ça attriste Dieu de voir, puis il y a combien de fois qu'il a voulu les ramener, puis le monde n'écoute pas. Mais si ça serait rien qu'une force, le Saint-Esprit, tu pourras pas le chagriner, puis il fait de la peine, puis le rendre triste, puis le gêner, puis lui causer un scrupule. La Bible dit que les humains, dans plusieurs versets, là, ils s'opposent au Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit veut faire des affaires, puis nous autres, on veut le contraire. On s'oppose au Saint-Esprit, on conteste le Saint-Esprit, on attriste le Saint-Esprit, on outrage le Saint-Esprit, on blasphème le Saint-Esprit. C'est toutes des affaires qui sont écrites dans différents versets. C'est pas juste une force, c'est un être qui a une volonté, puis cet être-là, c'est Dieu. Qui a une volonté, il veut faire des choses, puis nous, on n'est pas toujours à l'unisson avec la manière qu'il pense. Mais il faut le devenir, frères et sœurs, parce qu'on est appelé à vivre rempli du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit se manifeste à travers nous comme qu'il le voudra. Le Saint-Esprit pense, il prend des décisions selon la volonté de Dieu, parce qu'il est Dieu. 1 Corinthiens 12, le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Ça nous parle de tous les dons spirituels, même les ministères. Tout ce que Dieu fait sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui est en train de le faire. Tu peux dire c'est Dieu le Père qui agit, mais tu peux dire aussi c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ce verset-là, il dit un seul et même esprit. Il n'a pas deux Saint-Esprits, il n'a juste un. Un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, toutes les opérations de dons spirituels, de dons de ministère, d'action pour fortifier, pour nous diriger, pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous utiliser. Tout ce qui se passe, c'est le Saint-Esprit qui est en train de le faire à travers de nous. À part des mauvaises affaires, c'est pas lui. Parce que Dieu ne fait pas le mal. C'est nous qui fait du mal. Et regardez bien dans la suite. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est le Saint-Esprit qui prend des décisions de décider qui va avoir quel don. Comme il le veut. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'on a à se soumettre afin qu'il puisse nous utiliser. Si on est rebelle, puis on résiste, puis on refuse, puis on fait le contraire, on pense des fois à être rempli, mais on ne l'est pas rempli. Pour être rempli, quand tu es rempli, tu le sens que tu es rempli. Tu te sens dedans. Il y a quelque chose de surnaturel qui émane de ta vie, qui te remplit de joie, de paix, d'amour. C'est pas comme le naturel que tu te lèves le matin et tu as mal partout, puis là tu commences à chialer après tout le monde. Il y a quelque chose de complètement contraire à notre nature humaine charnelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oui. Un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit prend une décision de faire quelque chose, ben c'est en accord avec l'Esprit du Père aussi, puis en accord avec Jésus. Ils peuvent pas être opposés un l'autre. Ils sont 100% dans la même idée tout le temps. Fait que le Saint-Esprit, s'il décide de faire quelque chose, mais le Père aussi est d'accord, puis Jésus est d'accord. Ça n'a jamais arrivé que Jésus était contraire à la volonté du Père. Jamais. Sinon, il aurait été un pécheur, puis il aurait eu besoin d'être sauvé par quelqu'un d'autre. Puis le Saint-Esprit, c'est la même affaire. Puis le Saint-Esprit prend des décisions. Donc, c'est-tu juste une force, le Saint-Esprit? S'il décide de donner tel don à un tel, c'est parce qu'il est vivant. C'est le Dieu vivant. L'Esprit Saint, il était là lors de la création. Il est le Créateur. Comme Jésus est le Créateur. Il dit tout. Il n'y a rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. Mais le Saint-Esprit était là aussi pour faire les choses. C'est pour ça que c'est écrit Dieu dit, puis ça dit Dieu fit. C'est Dieu, les deux. Mais il y en a un qui commande, puis l'autre accomplit. C'est comme s'ils ont chacun leur rôle. Selon la volonté du Père. Dans Genèse chapitre 1, verset 2, ça dit que la terre était informe et vide, puis il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est là depuis le début de la création terrestre, mais il était là bien avant ça, parce qu'il était là avant la création spirituelle, puis il était là de toute éternité, avant toute chose, avec Dieu le Père et Jésus-Christ. Ils n'ont pas de commencement, il n'y a pas de commencement ni fin de jour. Ils sont éternels. L'Esprit de Dieu, il est omniprésent. Ça veut dire quoi être omniprésent? Partout en même temps. Tu vas à une place, le Saint-Esprit est là, tu vas aller aux places qui, contrairement aux démons, aux anges, sont à un endroit à la fois. Ils ne sont pas omniprésents. Quand on dit « Oh, le diable m'a tenté », mais l'autre qui est au bord de la planète dit « Le diable m'a tenté », c'est clair que c'est pas le diable qui nous a tenté tous les deux. C'est un de ses acolytes, ses démons. Il peut donner des ordres comme s'il y a un quartier général à quelque part, mais il est pas omniprésent comme Dieu. Il peut se promener, mais je pense pas qu'il vienne s'occuper de mon cas. Je suis trop minime pour lui, mais il envoie subalternes. Pour venir essayer de me tenter ou m'éprouver. Mais contrairement à Dieu, que lui, Dieu, il est éternel. Il est omniprésent. Il est partout en même temps. On voit ça dans Psaume 139, les versets 7 à 10. Ça dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore que j'ai à l'habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Où irai-je loin de son esprit? » Dans ce verset-là, le Saint-Esprit est appelé la droite de Dieu. Ça dit, « Où irai-je loin de ton esprit? » Il dit, « Ta droite me saisira. » Il est la droite de Dieu. Jésus, où est-ce qu'il s'est assis quand il est monté au ciel? Il était assis à la droite de Dieu, dans la toute-puissance, dans l'omniprésence. Puis Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. » Jésus a présentement tout pouvoir. C'est pas le diable qui mène. Le diable ne mène que ce que lui est permis de faire. C'est Jésus qui a tout pouvoir maintenant depuis sa victoire. Le diable a été précipité sur la terre. Il n'y a plus grand temps. Ça achève ses affaires. Ça achève. On est rendu dans l'accomplissement des temps, là, très achevé. On est à la fin des fins des temps. En Jésus-Christ, c'est quelque chose, il nous a été permis de recevoir le Saint-Esprit qui existe depuis l'éternité avec Dieu. C'est un même esprit-là, il est en Jésus, qui a permis à Jésus de s'offrir en sacrifice. Si le Saint-Esprit n'aurait pas été là, Jésus n'aurait pas été Dieu. Si Jésus a accompli ce qui a à être fait puis qui a été agréé de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit était là. Alors regardez bien dans Hébreux 9, 14. Là, il parlait d'un sujet. J'arrive dans le sujet. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, c'est par l'esprit éternel que le sang de Christ a été a permis au Christ à s'offrir, il dit, c'est par un esprit éternel qui s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, il va purifier notre conscience des œuvres mortes. Mais l'idée, c'est que Jésus a accompli sa mission parce qu'il y avait en lui l'esprit éternel. Fait que quand tu arrives à Pentecôte, puis il dit, il répand son esprit sur toute chair, c'est l'esprit éternel qui vient d'entrer en nous, là. C'est Dieu le Père, puis c'est Jésus en même temps. C'est quelque chose. On est rendu participant de la nature divine par l'Esprit qui est en nous. On voit dans un dernier verset que l'Esprit, il est le Tout-Puissant aussi. On voit ça dans Romains 15, les versets 18 à 19. C'est l'Esprit qui manifeste la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit, je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'a pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. C'est-à-dire, Paul, quand il prêchait au monde pour lui dire, Dieu fait ça, lui dit, il mentionnera pas de choses que lui n'a pas déjà vécues. Il dit, ce qu'il a annoncé, il a parlé de ses paroles et ses actes, par la puissance des miracles, des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tout ce que l'apôtre Paul a vécu dans son ministère, les guérisons, les délivrances, les prophéties, les révélations, tout, c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Fait que le Saint-Esprit qu'on a reçu, c'est Dieu. Puis il y a la toute-puissance de Dieu dans ce Saint-Esprit-là. On a la grâce, une affaire incroyable. Il dit, or à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Dieu, il n'y a pas de limite. Il n'y avait rien, il a créé l'univers. Il n'y a pas de limite. C'est cet Esprit-là qui a fait tous les miracles puissants à travers l'apôtre Paul. Puis c'est cet esprit-là qu'on a reçu 2000 ans plus tard, qui est encore répandu à tous ceux qui ont soif de Dieu. Est-ce qu'on veut marcher avec le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on veut expérimenter les choses avec Dieu? Est-ce qu'on veut, premièrement, être sauvé, le recevoir, ce Saint-Esprit-là? C'est à partir du moment que tu le reçois que tu es sauvé. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, mais il ne lui appartient pas. Il faut que tu l'aies reçu. Puis pour le recevoir, c'est ce que la Bible appelle, il faut que tu naisses de nouveau. Ça commence là. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il faut que tu le reçoives. On est tous nés de l'eau, déjà, en essence. Tu es sorti de l'eau. Tu étais dans le ventre de ta mère, tu étais dans l'eau. Tu es né de l'eau, mais tu n'es pas nécessairement né de l'esprit. Il faut que tu le deviennes, né de l'esprit. Il faut qu'à quelque part dans ta vie, tu reçoives le Saint-Esprit dans ta vie. C'est quand tu reconnais que Jésus est mort sur la croix, qu'il a versé son sang pour pardonner tes péchés. Si tu veux changer de vie, là, si tu veux que ta vie change, il faut que tu demandes pardon au Seigneur. Il faut que tu y dises que tu es pécheur et que tu ne peux pas être sauvé par toi-même. Il faut que tu y dises que tu crois qu'il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés. Puis quand tu y dis, « Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, je veux changer de vie. » Mais il va dire, « C'était justement pour ça que je suis venu. Mon sang te lave, je te pardonne tous tes péchés. » Puis à partir de ce moment-là, il dit, « Tiens, il souffle sur nous, puis on est rempli du Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit de Dieu. On est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es dans la nouvelle vie, en communion avec l'Esprit du Créateur. Là, maintenant, marchons avec le Seigneur. Je vais faire un appel s'il y en a qui n'ont jamais fait l'expérience, puis ils se disent, j'aimerais ça, moi tout, faire partie de la famille de Dieu, recevoir le Saint-Esprit, être pardonné de mes péchés. Des fois, c'est peut-être des choses qu'on a entendues souvent, mais on ne les a pas réalisées, ou il y a des fois, peut-être c'est la première fois qu'on entend parler, puis on comprend qu'on veut être sauvé. Je vais faire une prière pour ceux qui veulent le recevoir. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient ça recevoir Jésus comme leur sauveur personnel, pour que leur vie soit changée par le Saint-Esprit de Dieu? Je vais faire une prière avec vous. Répétez cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre. Te servir tous les jours de ma vie et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen.